Voilà. Ok, on va prendre des roumages. Donc derrière, il y a des roumages. Allô? Oui. Regardez, appelez-moi à 22h30 ou demain matin, je suis en cours là maintenant. Ok, excusez-moi. Excusez-moi, hein. Demain matin, s'il vous plaît. Ok. Alors, dans Parashat Emor, on parle plusieurs fois dans la Torah de Sfirat HaOmer, mais la première occurrence, c'est dans Parashat Emor, c'est-à-dire la paracha de la semaine prochaine. C'est-à-dire, c'est dans le Lévitique, chapitre 23, Vaïkra, chapitre Kaf Guimel, page 202. Donc, à la fin de Parashat Emor, la Torah nous rapporte les fêtes, toutes les fêtes, et nous rapporte d'abord Pessah au passouk 9 et au passouk Tet Vav 15, juste après Pessah, la Torah nous dit: Usfartem lachem imachorat ha-shabbat miyom aviyachem et omer ha-tenufa, sheva shabbatot temimot tiena, ad mimachorat ha-shabbat ha-shevi'it isperu chamishim yom, v'ikraftem mincha chadasha l'Hashem. Vous compterez pour vous le lendemain du Shabbat, à partir du jour où vous amenez la gerbe de balancement, on va expliquer, 7 semaines entières, elles seront. Alors, comme ça, sans les commentaires, sans les commentateurs, qu'est-ce que vous dites? Ça veut dire quoi? Sfartem lachem imachorat ha-shabbat miyom aviyachem et omer ha-tnufa sheva shabbatot temimot yena. Vous compterez pour vous le lendemain du Shabbat, à partir du jour où vous amenez la gerbe de balancement, 7 semaines entières elles seront. Ça veut dire quoi? Alors, on va expliquer qu'est-ce que c'est.
Déjà, pourquoi il dit le Shabbat?
Le lendemain du Shabbat. Alors, ça ne va pas être le cœur du sujet. Si vous voulez, il y a une gerbe de, c'est le cas de dire, de sujet qui se présente. Nous allons nous attacher à un point précis. Vous compterez pour vous le lendemain du Shabbat. Le Shabbat dont on parle, c'est le lendemain de Pessah. Pessah est appelé Shabbat, mais les Sadducéens et à leur suite les chrétiens qui refusent la tradition orale disent le lendemain du Shabbat de Pessah. C'est pour ça, on a déjà vu
une seule
fois.
Non,
Clément.
J'étais pas là, j'étais absent.
Mais attends, Clément, toi qui es parmi ceux qui redoublent le plus.
Bien avant de te connaître.
Comment? C'est de naissance.
C'est de naissance.
C'est de naissance. Toi qui es un redoublant sui generis. Ouais. Donc, on a déjà étudié ça moult fois.
C'est pour ça qu'il y a le...
Sauf ton respect, ça frise la catastrophe. Non, ça frise que l'enseignant n'arrive pas à...
Je suis sûr que j'ai déjà vu ça.
Je suis sûr que tu as déjà vu ça avec moi 5 fois. Bon, on ne saura jamais la vérité. Mais si vous lisez les textes que j'envoie par lien, par mail, parmi les textes que j'ai envoyés il y a 2 jours par mail, il y a 15 pages sur cette question.
Shabbat.
Comment ?
Sur la question de pourquoi on appelle Shabbat ?
Ouais. Bon, c'est comme quoi... Bon.
Non, mais j'en lis certains, mais c'est bien que tu nous signales. Non, ne cherche pas à te rattraper.
Enfin, voilà, en un mot. Ouais, pour aller à l'essentiel, parce qu'on n'a pas, des heures pour faire que déconner. Pour aller à l'essentiel. La Torah nous dit le lendemain de Shabbat. Le lendemain de Shabbat, la tradition orale nous dit, c'est-à-dire ce que nous avons reçu au Sinaï, c'est que le lendemain de Shabbat, le Shabbat dont on parle, c'est Pessah. Maintenant, les Sadducéens étaient à l'époque du Second Temple, presque la mouvance majoritaire officielle des dignitaires juifs, hellénisés, qui a donné ensuite le christianisme, refuse la tradition orale. Donc ils disent, c'est le lendemain de Shabbat. Les chrétiens ont transformé le Shabbat en dimanche, c'est pour ça que la fête de Pâques des chrétiens, c'est le lundi. C'est le lendemain du Shabbat, le lendemain de leur Shabbat, c'est-à-dire le dimanche. En vérité, c'est la tradition sadducéenne qui donnera le lundi de Pentecôte, cette semaine après. Le lundi de Pentecôte. C'est la tradition sadducéenne.
Je suis sûr que j'aime, c'est génial.
Comment ? Bon, on va pas. Donc, c'est-à-dire que dans notre tradition, dans la tradition juive, le christianisme est une version hellénisée du judaïsme. C'est un regard grec sur le judaïsme. Bon, voilà. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est pas le cœur du sujet. Pourquoi ? Parce que j'ai déjà abordé 1000 fois ce sujet, 1000 fois j'exagère, mais pourquoi s'écrit le lendemain de Shabbat ? En tout cas, c'est le lendemain de Pessah. On compte... Alors, à partir du jour où on amène la gerbe de balancement. Alors, qu'est-ce que c'est ? À l'époque du temple, le 16 Nissan, donc le lendemain de Pessah, qui est le 15 Nissan, on offre un sacrifice au temple qui est une gerbe d'orge. Cette gerbe d'orge a une incidence halakhique encore de nos jours. C'est-à-dire que lorsque le printemps est bien prononcé, comme maintenant, les céréales commencent à être mûres au Moyen-Orient. Les premières... On n'a pas le droit de faucher des 5 céréales. Quelles sont les 5 céréales bibliques ? C'est le blé, l'orge, l'épeautre, l'avoine et le seigle. On n'a pas le droit de faucher ces cinq céréales en Eretz Israël tant qu'on n'a pas apporté le sacrifice du Homer au temple. Incidence pratique, même hors d'Israël, c'est qu'on n'a pas le droit de manger de la nouvelle récolte de céréales, même hors d'Israël, tant que le 16 Nissan n'est pas passé. Prenons un exemple. Alors, j'ai essayé de voir pratiquement quelle incidence y a-t-il de pratique. Ça veut dire, parce que quand vous achetez, par exemple, Pessah, là, c'était assez tard, disons, je fais ça, c'était le 17, 18, 18 avril. OK. 18 avril. la farine, disons, qu'on trouve dans le commerce début avril, a été fauchée avant le 16 Nissan, évidemment. Mais en vérité, il n'y a pas de problème parce que c'est de la farine des années précédentes. La farine qu'on a, ce n'est pas la farine qui a été moissonnée il y a une semaine. C'est vieux. Bien. L'incidence pratique, c'est, en essayant de voir, c'est la bière de Mars. La bière de Mars. Et c'est quoi la bière de Mars? Mais pour les amateurs, c'est faite avec l'orge primeur. Alors, la bière de Mars, ça ne va pas. La bière de Mars, on ne peut pas prendre...
Avant le 16 Nissan.
Ah, oui, bon, Nissan, c'est Pessard, la bière, on ne peut pas en prendre.
D'accord, merde.
Mais disons, une année qui n'est pas une année embolismique comme cette année, donc où Pessard est plus tôt, donc Pessard, disons, est fin mars, disons, début avril, on ne peut pas prendre la bière de Mars, il faut attendre que Pessard soit passé. Bon, ça enlève tout le charme. On ne peut pas être juif et profiter du monde comme un goy. Il faut savoir, il faut choisir, juif ou goy. Il y en a qui choisissent d'être goy, mais bon, c'est comme vous voulez. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est l'incidence pratique vraiment concrète. La bière de Mars est a priori interdite. Parce que c'est l'orge primeur. C'est fait de... Vous savez de quoi c'est fait, la bière? Comment? Comment? Non, c'est de l'orge. Le houblon, c'est pour assaisonner. Le houblon, c'est pour donner l'amertume, mais la bière, fondamentalement, c'est de l'orge fermentée. Voilà. C'est vraiment Hametz. Okay. Bon, enfin, voilà. En tout cas, c'est ça. Donc, le lendemain, vous avez un chumash, là. Donc le lendemain de Pessah, on compte 7 semaines, et le verset d'après dit Amimachorat à Shabbat à Shvit, jusqu'au lendemain de la 7e semaine. Shabbat ici veut dire semaine. Tisperu Chamishim Yom, vous compterez 50 jours. Vikravtem Mincha Chadasha Lachem, vous offrirez une offrande neuve à Dieu. Ok, je veux... Le cœur de notre sujet n'est pas définir qu'est-ce que c'est Mincha Chadasha. C'est pas notre sujet. Ce que je veux seulement voir, c'est ce qu'on appelle la Sfirat HaOmer. C'est écrit Usfartem Lachem, vous compterez pour vous. Que veut dire? Pourquoi des fois c'est écrit au singulier, des fois c'est au pluriel, vous compterez pour vous, c'est-à-dire chacun d'entre nous doit compter. Chacun d'entre nous doit compter... le compte, donc jusqu'à la fête de Shavuot, qui est le 50e jour de ce compte. Okay. Alors, à quoi correspond ce compte? Donc, c'est la mitzvah de Sfirat HaOmer. Donc, le tous les soirs, c'est une mitzvah qui dépend du temps, un commandement positif qui dépend du temps, donc ça incombe aux hommes. Les femmes n'ont pas l'obligation, donc ça incombe aux hommes de faire cette mitzvah, de compter tous les soirs jusqu'à la fête de Shavuot. À quoi ça correspond? Alors, le Chinour, un grand livre, le Sefer HaChinour, donne une explication, parce que comme la sortie d'Égypte n'était pas un but en soi, la sortie d'Égypte est un départ. Le but, c'est de recevoir la Torah au Sinaï. Donc, il va y avoir, à partir du lendemain de Pessah, commence, si vous voulez, une élévation. Chaque jour, on se prépare pour recevoir la Torah à la fête de Shavuot. Donc, chaque jour, c'est un jour de préparation, un jour de préparation, un jour de préparation. Et le Chinour explique, c'est pour ça qu'on ne compte pas 49, 48, 47, 46. Parce que si on disait, si vous voulez, par exemple, il y en a, ouais, nous, quand on était gosses, on comptait le nombre de jours, d'abord le nombre de semaines, ensuite le nombre de jours jusqu'aux vacances. Vous voyez encore combien de jours jusqu'aux grandes vacances? Oui. Alors, dit, ah, deux mois, je crois. Deux mois. Alors, deux mois. Deux mois, moi, un. Deux mois, moi, deux. C'est, ensuite, on compte, voilà. Ensuite, il y a 30 jours, 29 jours. Alors, si vraiment c'est tellement important, Shavuot, on devrait compter 49, 48, 47. Le Chinour répond non. C'est que si c'est comme ça, c'est qu'en attendant, on perd notre temps. Tant qu'il n'y a pas les vacances, bon, on fait ce qu'on a à faire, on tire la langue. Non, mais c'est comme si on dit 49, 48, 47, c'est comme si ça ne valait pas le coup. Ces jours-là ne valaient pas le coup. Ils étaient vides, ils étaient là pour rien. Donc c'est pour ça qu'on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jusqu'à 49 compris, pour montrer que chaque jour est important. 1, 2, 3, une semaine, deux semaines, trois semaines. Les semaines expriment des étapes et il y a les sous-étapes, c'est les jours. Il faut compter les semaines et les jours. Donc on se prépare. On se prépare à quoi ? Bon, à Matan Torah, mais qu'est-ce qu'on fait ? C'est mignon de le dire. Qu'est-ce qui se passe ? Alors nous savons aussi qu'il y a une période de demi-deuil. On est dans une période, la période du Homer est une période de demi-deuil. Alors il y a, ça, on doit faire ce deuil pendant 33 jours, pendant cette période. Il y a une différence de coutume. La plupart commencent ce deuil à partir de Pessah et le terminent à l'Agba Homer compris, le 33 jours du Homer. Et d'autres commencent le deuil à partir de Rosh Chodesh Iyar, il n'y a pas le deuil à l'Agba Omer, et termine trois jours avant Shavuot. Voilà. Donc il y a deux coutumes. Deux coutumes. Alors en quoi consiste ce deuil ? C'est quoi ce semi-deuil ? Quels sont les signes de deuil ? Oui. Voilà, exactement. Ça, on ne se rase pas, on se coupe pas les cheveux, et on ne fait pas de mariage, et on n'écoute pas de musique. Alors, c'est le deuil de quoi ? Très bien. Voilà, c'était la question qu'il fallait poser. Alors, c'est le deuil de quoi ? Pourquoi un deuil ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi cette période de demi-deuil, pendant cette période de préparation à recevoir la Torah au Sinaï ? Alors, pourquoi ?
Oui,
élève de Rabbi Akiva. Et qu'est-ce qui s'est passé avec les élèves
de Rabbi Akiva ? Le 33e jour, je crois, de l'Homer, ils sont morts. Enfin, je crois qu'ils ont été punis parce qu'il y avait une ambiance dans la yeshiva de Rabbi Akiva qui faisait qu'ils étudiaient chacun de leur côté. Il n'y avait pas de communauté. Et c'était.
Parfait, c'est ce que nous allons étudier ce soir. Voilà, on va voir le texte qui parle de ce que tu dis. Très bien, parfait. Donc c'est un deuil en mémoire, en commémoration d'une catastrophe qui s'est passée. C'est que Rabbi Akiva avait 24 000 élèves et les 24 000 élèves sont morts dans une épidémie. Et donc en souvenir de cette catastrophe, il y a un deuil, un certain deuil pendant cette période.
Donc c'est postérieur au texte de la Torah.
Oui, c'est-à-dire, ce deuil n'est pas d'après la Torah. Ce deuil n'est même pas une institution rabbinique. C'est une coutume importante que tout le peuple juif suit, mais qui a une base dans le Talmud, comme nous allons le voir. Mais ce n'est pas effectivement dans le texte de la Torah. Mais néanmoins, nous verrons pourquoi c'est dans cette période que ça s'est passé. Ça, c'est sûrement significatif.
Oui, je voulais savoir, parce qu'on parle de maintenant comme d'un nombre, et c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu, Rabbi Akiva, qui était un si grand maître, n'a pas eu d'élèves parmi les 24 000, il n'y avait pas de grands raves qui sont morts. Enfin, il y a eu des. Maintenant, on parle quasiment des élèves de Rabbi Akiva, mais il n'y avait pas dedans, certainement ils ont tous fauté, mais il n'y avait pas là-dedans quelques-uns qui. On parle quand même de gens qui certainement étudiaient la Torah, donc ils étaient tous un peu singuliers. Et donc tout cela, il n'y a pas eu. Tous les élèves sont morts, il n'y avait pas quelques-uns qui sont considérés comme les vrais élèves de Rabbi Akiva.
Et qui ont été épargnés
oui, ou... par exemple,
ou... on va voir. On va voir ça. Hein. Ok. Bien. Alors, le texte originel se trouve dans le traité Yevamot, d'Av Samerbet Amoudbet. Samerbet, ça veut dire 62b. Je vous passe des textes. Hein. Oui, alors c'est alors Rabbi Akiva.
C'est contemporain de la destruction du temple.
Oui, Rabbi Akiva est contemporain de la destruction du temple. Dans la destruction du temple, c'est quoi?
Le premier, c'est
70. C'est 70, hein, si je ne m'abuse, de l'ère commune. Et Rabbi Akiva était jeune à l'époque de la destruction du second temple. Et d'après notre traduction, de notre tradition, il a vécu plus que 100 ans. Et il est décédé, donc, sous l'ordre d'Adrien. C'est Adrien, donc 100 ans après, grosso modo, c'est sous l'ordre d'Adrien qu'il a été torturé à mort, dans la révolte de Bar Corba. Bien. Alors... Regardez, c'est au milieu de la page, vous avez Resh Ain Omer, Rabbi Akiva Omer. Rabbi Akiva Omer, Resh Ain. C'est bon, vous voyez? Resh Ain, c'est au milieu de la page. Un tout petit peu plus bas que le milieu de la page. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9e ligne avant que ça devienne plus large. Vous voyez ? 9. Rabbi Akiva Omer. Rabbi Akiva dit. L'amad Torah beyalduto, ilmod Torah beziknuto. S'il a étudié la Torah dans sa jeunesse, qu'il étudie la Torah dans sa vieillesse. Donc si quelqu'un a étudié, beaucoup étudié, qu'il continue à étudier. Ayulo talmidim beyelduto, yulo talmidim beziknuto. Il a eu des élèves dans sa jeunesse, qu'il ait des élèves dans sa vieillesse. Donc quelqu'un a enseigné dans sa jeunesse, qu'il ne s'arrête pas. Qu'il continue à enseigner. Il a eu des élèves dans sa jeunesse, qu'il continue à avoir des élèves dans sa vieillesse. Chez Néhémar, comme dit le verset dans Kohelet, Baboker zra et zarecha, vela erev altina yadecha. La suite du verset, le matin sème ta semence et le soir ne t'arrête pas. Bon, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, énormément, mais j'aimerais arriver à. C'est la suite que je veux voir avec vous. Amrou, nos maîtres disent. Shnaim Asar, Elef, Zugim, Talmidim, Ayulo, les Rabbi Akiva, Megivat, At, Antiparas. 12 000 couples de deux élèves avaient Rabbi Akiva de la ville de Givat jusqu'à la ville d'Antiparas. Donc l'étude de la Torah, en général, traditionnellement, s'étudie par groupe de deux, ce qu'on appelle les chavrutot. On n'étudie pas la Torah seule. La Torah s'étudie toujours à deux. Voilà. Ça s'étudie toujours à deux, ce qu'on appelle les chavrutot. Bien. Et il y avait 12 000 groupes de deux élèves. Vechulam Metu beperek echad. Et tous sont morts dans une même période. Ils sont tous morts dans la même période. Alors ça, c'est une énorme catastrophe. Énorme catastrophe. Parce que Rabbi Akiva, en vérité, on pourrait dire, est l'exemple même du renouveau du peuple juif. Le temple, comme on a dit, il est contemporain. Dans sa jeunesse, le temple a été détruit. Et bon, nous, on ne sait pas qu'est-ce que c'est le temple de Jérusalem. Mais on voit bien que dans nos prières, on répète tout le temps, reconstruit le temple, reconstruit le temple. J'ai coutume de dire, on mange 3 pépitos. Vous savez que c'est les pépitos? C'est les pépitos, Lucien. Pépitos, hein? On mange 3 biscuits. Déjà, on doit faire la bénédiction après, et on demande déjà la reconstruction de Jérusalem. Donc c'est vraiment fondamental. Tout le temps, on demande la reconstruction du temple. Tout le temps. Ça fait vraiment... C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc j'imagine que les gens qui ont vécu la destruction de Jérusalem, c'était absolument inouï. Nous, on est une génération... Après la destruction du judaïsme d'Europe centrale, de l'Est, où tout a été massacré, et pas seulement, tu avais un judaïsme, par exemple, grec, à Salonique, tu avais, je ne sais pas, 100 000 juifs à Salonique, 200 000 juifs, en un an, tout a été massacré. Ceux qui ont vécu ça, c'est la fin, c'est la fin d'haricots. Donc la destruction du temple allait avec les massacres qui allaient avec, c'était la fin. Et Rabbi Akiva lui-même, comme nous le savons, n'a pas appris la Torah dans sa jeunesse. Il a commencé à apprendre à l'âge de 40 ans, est devenu le plus grand maître, qu'il n'y avait jamais eu un grand maître comme ça depuis des siècles. Donc c'était un renouveau total, Rabbi Akiva. Et pas seulement un renouveau, mais nous voyons, il avait 24 000 élèves. Que lui, ce soit un esprit d'exception, tant mieux. Ça soulevait des foules. 24 000 élèves, ça soulevait des foules. Et toc, tous morts. Là, catastrophe. Et le Talmud, regardez ce que le Talmud nous dit. Kulam et tout, Beperek Echad. Ils sont tous morts à la même période. Mipne, Shelo, Nagu, Kavod, Zelazé. Parce qu'ils ne conféraient pas du respect les uns aux autres. Parce qu'ils ne conféraient pas du respect les uns aux autres. Arrêt sur image. Passage incroyable. C'est un passage incroyable. Ils sont tous morts. Il y a eu une épidémie. Alors, nous, voilà, il y a un mois et demi au Japon. Ouais. Il y a eu le tsunami et la centrale de Fukushima en déshérence. Ok. Quelqu'un te dirait pourquoi? Parce qu'il mangeait des sushis. Non, mais je sais pas. Pourquoi ça leur est arrivé? Je sais pas moi pourquoi. Je sais pas pourquoi. Je veux dire, pourquoi c'est arrivé? Pourquoi c'est arrivé? Tu sais dire pourquoi? Pas toi qui étais en Israël, pourquoi c'est arrivé, Fukushima?
C'est clairement des sushis.
Comment?
C'est clairement des sushis.
Je pense, thon rouge. Ouais. Ça mangeait thon rouge. Non, mais pourquoi? Pourquoi? Je sais pas, on peut se poser la question. Mais on peut aussi, on peut s'interroger. Mais les réponses, disons, seront diverses. Disons, sur, je ne sais pas moi, combien il y a eu de morts. Des milliers, j'imagine.
20 000.
Comment ?
20 000.
Bon, alors j'imagine qu'il y en a à cause de ci, il y en a à cause de ça. Je ne sais pas moi pourquoi. Je ne sais pas. Le Talmud nous dit, les 24 000 élèves, donc c'est à peu près le même compte, vous voyez ? Parce qu'ils ne se conféraient pas du respect mutuellement. Mais peut-être, comme tu as dit un peu, peut-être dans les 24 000, t'en as un qui était gentil, je veux dire. Peut-être un était gentil, l'autre c'était un voleur, l'autre il profanait Shabbat en cachette, l'autre il regardait des choses pas cachères sur Internet, je sais pas moi. Je ne sais pas pourquoi. Tout à cause de ça. Et ça, c'est un passage incroyable.
Et les respects les uns les autres, c'est entre les
couples. Je ne sais pas.
Les couples par rapport aux autres couples.
Ils se respectent. Ils ne se conféraient pas de respect les uns des autres. Je ne sais pas bien qu'est-ce que ça veut dire. D'abord, ils se conféraient pas. Qu'est-ce que ça veut dire ce... Le matin, ils voyaient, dégage patate, qu'est-ce qu'ils disaient, connard, qu'est-ce qu'ils faisaient, je ne sais pas, moi, est-ce qu'on ferait pas du respect mutuel, je ne sais pas, qu'est-ce que c'est. C'est un peu obscur comme raison, et on meurt pour ça.
C'est invraisemblable.
Hein ? Non, c'est un passage connu, hein ? C'est un passage célèbre, enfin, relativement célèbre, mais si on essaie de voir le texte vraiment... Oui. Anna, tu veux dire quelque chose ? Oui.
Déjà, la seule chose, c'est qu'on ne va pas traiter tout à fait les deux sujets de la même façon. Mais disons que c'était quand même des élèves. C'est toujours la même histoire que pour les fils d'Aaron. On voit plus les taches sur du linge blanc. Il y a plus de...
Non, non, c'est seulement... C'est pour illustrer. Je laisse. Je laisse Fukushima là-bas. C'est pas notre sujet du tout. Tu as raison. C'est que sûrement, c'était les élèves de Rabbi Akiva. Et tous, ils sont morts à cause de ça. Tous, ils sont morts. Tous, les 24 000 sont morts.
Il était torturé par les Romains.
Mais bien plus tard. Quand 24 000 élèves, les 24 000 élèves sont morts. 24 000 sont morts. Et le Talmud, sans appel, dit parce que ils ne se conféraient pas du respect mutuellement. On ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire, pas se conférer du respect mutuellement. C'est pas bien. Voilà. Ve'aya ha'olam shamem. Le monde était désolé. Shamem signifie désolé. Rashi, regardez Rashi. Shamem. Rashi est dans la colonne de gauche plus haut. Shamem, shenishtakra Torah. La Torah a été oubliée. C'est-à-dire, c'était un nouveau destruction du temple, si vous voulez. Après ça, tout le monde était désespéré. Nishtakra Torah. Les gens ne voulaient plus étudier la Torah. Après ça, c'était terrible. Ad Sheba, donc ça, la suite est une réponse à ta remarque tout à l'heure. Ad Sheba Rabbi Akiva, Etzel Rabotenu Sheba Darom, Veshana Laem. Et finalement, Rabbi Akiva a continué. Il est allé auprès de nos maîtres qui sont dans le sud, et leur a enseigné. Et qui sont-ils ? Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon, ve Rabbi Elazar ben Shamua, ve M.M. Emidu Torah Otasha. Donc, Rabbi Akiva conclut quand, au départ de ce texte, le texte nous dit que tu as étudié la Torah dans ta jeunesse, continue
d'apprendre.
Tu as enseigné dans ta jeunesse, continue. Eh bien, Rabbi Akiva l'a expérimenté lui-même. Il a continué, malgré ça, à enseigner. Malgré ça, il a continué à enseigner et à la fin, il a eu 5 élèves qui eux-mêmes étaient déjà des maîtres. Il est allé auprès de nos maîtres qui sont dans le sud. Et qui étaient-ils ? Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Et Rabbi Lazar ben Shamoa. V'emem emidu Torah. Toute la Torah que nous avons vient de ces 5 élèves. L'enseignement dans la vieillesse de Rabbi Akiva. Alors là, ça marchait. Donc, il aurait pu s'arrêter. Il ne s'est pas arrêté. Il a continué. Alors, tout le temps, je me suis demandé, comment Rabbi Akiva a-t-il pu avoir des élèves chez nous, un goût qu'avant qui ne se conférait pas du respect mutuellement. Ça veut dire que l'enseignement de Rabbi Akiva était déficient. Si ces maîtres, si ces élèves se conduisent comme des voyous, comment Rabbi Akiva, on lui a permis de continuer à enseigner ? On dit, ok, Rabbi Akiva, ça va, n'enseigne plus, arrêtons. Et regardez encore une phrase, c'est la première ligne moyenne là, un peu plus large, Tana, la tradition nous enseigne, Kulam metu me pesar ad atzeret. Tous ils sont morts entre Pessah et Shavuot. Atzeret, c'est le langage de la Torah pour parler de la fête de Shavuot. Donc ils sont morts pendant la période, justement, entre Pessah et Shavuot. Donc c'est ce qui est signifié ici, que pour nous rendre conscients de ce qui s'est passé à cette époque, nous faisons ce genre de deuil entre Pessah et Shavuot. Les 33 jours de demi-deuil, c'est la source dans le Talmud. Voilà. Bon, alors, quelle est la morale de l'histoire ? C'est quoi ? Qu'il faut étudier la Torah et se conférer du respect mutuellement. C'est ça ? C'est la morale ? C'est nul. Non ? C'est pas parce que tu étudies la Torah qu'il faut avoir de mauvaises manières. Ouais, moi je connais un religieux, mais il est, comment dire, en yiddish, à Preußtemensch. Vous parlez yiddish ?
Non.
Oh là là. Il vient étudier, il ne parle pas yiddish. Voilà. Non, je blague. Mais Preußtemensch, ça veut dire c'est grossier personnage. C'est un cliché, vous savez, c'est le type, il étudie la Torah, c'est un grossier personnage. C'est un cliché. Non, il n'y a pas de plus grand cliché. Donc c'est ça qu'on ressort. Il faut étudier la Torah, mais il ne faut pas être grossier. Bon, on va essayer. Là, c'est quoi la morale de l'histoire ? On ne voit pas tellement.
Il
ne
faut pas enseigner à 12 000 personnes.
C'est très bien ce que tu dis. Mais manifestement, c'est juste, ce que tu dis c'est juste, mais manifestement, l'enseignement de Rabbi Akiva a dû être une révolution à son époque. Ça a dû être une terrible révolution. Mais qu'est-ce que ça veut dire, l'onagou kavodzelazé ? Ils étudiaient. Si nous, on fait un deuil, à leur mémoire. C'est sûrement que la problématique qui est en jeu ici est encore aujourd'hui en jeu. Que ces élèves-là, eux-mêmes, quand on étudie la Torah, on est confronté, puisqu'ils sont morts dans la période entre Pessah et Shavuot, d'après la mitzvah de Sfirat HaOmer, c'est cette mitzvah jour après jour, et nous dit « Attention, tu vas recevoir la Torah. » C'est quoi la Torah? Si on peut s'exprimer ainsi. La Torah, c'est la sagesse du Créateur, du Boré Olam. Ce n'est pas la sagesse d'un homme, d'un individu. C'est la sagesse du Créateur, du Dieu infini. Nous, qui sommes des êtres relatifs, qui sommes des êtres... on est ce qu'on est. Si, par exemple, moi, si je saute un repas, ça me rend nerveux. Si je n'ai pas beaucoup dormi la nuit, et on va recevoir la parole de Dieu. Vous aussi? À peu près. On joue à peu près dans la même cour, quoi. Alors, on va recevoir la parole de Dieu, du Créateur, du Boré Olam. Donc, on ne vient pas comme ça. Il faut une préparation, une attente, une certaine appréhension même de est-ce qu'on va être au niveau, est-ce qu'on va vraiment pouvoir vivre cette Torah, etc. Et c'est pendant cette période que ces élèves, que c'est arrivé cette histoire. Mais on peut se poser la question. Mais l'onagou kavod zelazé, ça veut dire, ils étaient il y avait une déficience dans les relations entre individus. Et je dirais, c'est la première chose. Même il y a un enseignement que les enfants dans les jardins d'enfants juifs apprennent, ouais, que Rabbi Akiva il a dit, Ve'avta l'ereacha kamocha zeklal gadol batora. Rabbi Akiva, enseignement base de Rabbi Akiva, Amar Rabbi Akiva, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est l'enseignement fondamental de la Torah. Zeklal gadol. Alors voilà. Vafta l'ereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Zeklal gadol batorah. C'est la mitzvah qui est la plus générale de la Torah. Et voilà les élèves. Et nous, je vous donne un exemple. Pendant cette période, on doit pendant 33 jours donc se conduire avec un certain deuil. On ne fait pas de mariage, mais c'est aussi, on n'écoute pas de musique. Moi, je suis un fanatique de musique. Alors, pendant 33 jours, pas écouter de la musique, c'est atroce. À cause de pauvres types comme ça. Je veux écouter de la musique. Ils m'ont saoulé, ces types-là. C'est incroyable. Incroyable. Donc ça veut dire, parce que écouter de la musique, on dit la musique adoucit les mœurs, non, ça ouvre l'esprit, ça détend. Dans cette période, il ne faut pas être détendu. Pourquoi ? Incroyable. Alors, je me suis demandé longtemps, c'était quoi ces élèves de Rabbi Akiva ? C'était quoi même l'enseignement de Rabbi Akiva ? C'était quoi l'enseignement de Rabbi Akiva ? Et j'ai trouvé une Gemara dans le traité des Darim qui, me semble-t-il, va nous aider à comprendre quel était l'enseignement de Rabbi Akiva. Je vous passe. Alors, dans le traité Nedarim, il y a un passage qui longuement aborde la mitzvah de Bikur Cholim. Il y a une mitzvah qui s'appelle visiter les malades. Quelqu'un est malade, il y a une mitzvah d'aller voir le malade. Bien. Alors, regardez, ça commence là, la dernière ligne à droite. Rav Chelbo Chalash. Rav Chelbo est tombé malade. C'est en araméen, c'est écrit en araméen. Rav Chelbo Chalash. Rav Chelbo est tombé malade. Son nom, c'était Chelbo. Rav Chelbo Chalash. Rav Chelbo est tombé malade. Nafak Ariz Rav Kana est sorti et a publié Rav Kana. Rav Kahana a fait une annonce générale dans la yeshiva. Rav Chelbo Baish Loika Dekaate. Rav Kahana a fait une annonce dans sa yeshiva. Il a dit Rav Chelbo est malade, personne vient le voir. Donc c'est le Rav, il est scandalisé. Il dit, voilà, il y a notre ami Rav Chelbo, il est malade, c'est incroyable, personne ne va le visiter. C'est pas bien. C'est mal même. Et il argumente. Amar Léou, il leur a dit. Lokaraya maase betalmide chal betalmide rabbi akiva shechala. N'est-ce pas qu'une fois c'est arrivé, un élève parmi les élèves de rabbi akiva qui est tombé malade. Il a dit, vous savez, c'est grave. Et il dit, une fois c'est arrivé, il y a un des élèves de Rabbi Akiva qui est tombé malade. Qui est tombé malade. Ça vous rappelle quelque chose. Un des élèves de Rabbi Akiva qui est tombé malade. Lo nirnesu chachamim levakro. Ne sont pas rentrés les sages pour le visiter. Venirnas Rabbi Akiva Levakro. Et Rabbi Akiva est rentré pour le visiter. Au Bishvil Shekivdo Viribzo le Fanav Chaya. Et par le fait qu'il a balayé et aspergé le sol, il a survécu. C'est quoi asperger le sol? Parce que nous sommes au Moyen-Orient il y a 2000 ans. C'était le sol, c'était de la terre battue. C'était de la terre. Et quand il faisait chaud, donc la terre battue devenait de la poussière. Et donc la poussière se voltait dans l'air. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On balaye, on asperge le sol. Donc, on fait ça encore dans les pays chauds. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas fait des choses Rabbi Akiva très compliquées. Il est arrivé là-bas, il a vu que c'était le foutoir, il a balayé, il a aspergé le sol. Et rien que ça, l'élève il s'en est sorti. À Marlo, il lui a dit, Rabbi, Echietani, Rabbi, tu m'as sauvé la vie. Yatsa, Rabbi Akiva Vedarash. De là, Rabbi Akiva est sorti et a enseigné. Colmi, Shelmevaker Cholim, Kelou Chauffeur d'Amim. Toute personne qui ne va pas visiter un malade, c'est comme s'il versait du sang. Donc c'est non-assistance à personne en danger. Voilà. Alors maintenant, arrêtons-nous sur ce texte. Nous voyons de manière récurrente, Rav Kahana, c'est bien plus tard, c'est des siècles après. Hein. Rav Kahana n'est pas en terre d'Israël, il est à Babylone. Et on voit que de la même manière, les gens étudient la Torah. Il y a un des maîtres de la yeshiva qui est malade. Personne ne va le voir. C'est normal, ça ? C'est normal. Mais les dames de la viso, elles vont voir les malades. Raison de plus, les gens de la yeshiva. Ils ne vont pas le visiter. Alors Rav Kahana, il dit, vous savez, il faut aller visiter les malades. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit, c'est arrivé déjà avec les élèves de Rabbi Akiva. Maintenant, il est tombé malade. Ne sont pas rentrés les Chachamim pour le visiter.
Les
sages. Comment le texte dit-il, les sages ne sont pas allés le visiter? Il faut dire les salauds. Ce n'est pas des sages. Comment le texte peut-il dire, l'onirnesou chachamim le vakro? Les sages ne sont pas allés voir le malade. Le texte, chacham, c'est les sages. Chochma, c'est la sagesse. Les sages ne sont pas allés le visiter. Mais ce n'est pas des sages.
Il était contagieux.
Le texte le dirait alors. Bon, là, bon, ça c'est un autre problème s'il est contagieux.
C'est que des contradictions ce texte.
Hein ?
C'est un texte de contradictions.
Ça s'appelle le Talmud.
C'est.
Bienvenue au monde enchanté du Talmud. Ça s'appelle le Talmud. Ça veut dire. Il est aussi contradictoire ce texte. Paradoxal, voilà, c'est paradoxal. Paradoxal. L'onirnesou, chachamim le bakro, ne sont pas rentrés les sages le visiter. Mais il ne faut pas dire. Et même, tout de suite, mais, qu'est-ce que dit le texte? Rabbi Akiva lui est allé. Il a pris les chaussettes qui sentaient mauvais. Il est allé les amener au lavomatique. Il les a ramenés. Et il a dit, Rabbi, vraiment, chapeau. Et il est sorti de là, Rabbi Akiva, il dit. Et il a rassemblé tous ses élèves et leur a dit, attention. Kol mishenu mevakecholim kelu shofer damim. Et moi, si j'avais été à la place de Rabbi Akiva, j'aurais crié sur ses élèves. Sur eux, j'aurais dit, mais vous êtes pourris. Non, il ne crie pas, il leur enseigne. Donc c'est des interlocuteurs valables. Comment c'est des interlocuteurs valables? Mais on sait bien, il y en a qui disent, oui, des valeurs fondamentales du judaïsme, la relation à autrui, l'altérité, la relation à l'autre, que sais-je. Il y en a qui font des gratins comme ça. Valeurs humaines, n'est-ce pas une des bases du judaïsme? Comme disait d'ailleurs notre grand maître, Rabbi Akiva, déjà. On est maintenant chez Rabbi Akiva. On est chez Rabbi Akiva. Ses élèves, il y a un malade, continue à étudier. Alors, l'imbécile va dire, ils n'ont rien compris à la Torah. Ils n'ont rien compris. Ils sont dans la lettre, mais pas dans l'esprit. Non, pas du tout. C'est des chachamim. Mais nous, on se serait énervé. Mais sors de ta Gemara, sors de ton Talmud. Tu as traversé le Talmud, mais le Talmud t'a-t-il traversé? Dire à l'imbécile, pas du tout. Pour le Talmud, c'est bien. Il étudie, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Mais un copain, il est malade. Moi, j'ai pas le temps, excuse-moi, je dois étudier. Oh, il n'a rien compris au judaïsme. Non, non, c'est des chachamim.
Pourquoi? C'est pas forcément ça qu'ils disaient. Peut-être que c'était avec une autre idée dans leur étude. Peut-être
peut-être qu'on se disait, ben, je vais étudier pour son sroul, pour qu'il guérisse, etc., sans prendre conscience que, ben, en fait, aller prendre du temps pour aller voir cette personne sur place, ça avait de la valeur, une autre valeur aussi importante. C'est pas forcément...
C'est du béaba, je veux dire.
Oui, mais on dit que c'est des haramis, donc c'est pas force, justement. Forcément, c'est pas qu'ils se sont juste dit, oh non, j'ai pas le temps, il y a quelque chose derrière ça.
Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Pour nous, c'est pas des rachamim. Pour nous, ils ont rien compris. Des gens comme ça, on a envie de les baffer. On est atterri, quoi. Il y a atterri. C'est pas des sages, c'est des imbéciles. C'est... Toi, le type, il étudie la Torah. Il y a un copain qui est malade. Non, non, moi, je vais pas. Tu vas pas. Pauvre type, t'as rien compris. Rabbi Akiva ne leur dit pas qu'ils ont rien compris. Et même le texte dit qu'ils sont chachamim.
Il y a quelque chose qu'on a arrêté.
Comment?
Ce qu'elle dit,
il y a un truc là. Hein, hein? C'est bizarre. Hein?
Et par rapport à l'épidémie de 24 000 étudiants, ça situe quand?
Alors, j'imagine que c'est dans cette période. Ça, j'ai pas de preuves. Mais ça laisserait entendre un élève de Rabbi Akiva est tombé malade. On dirait que c'est le début. Moi, je dirais. Mais j'ai pas.
Nedarim laisse entendre que ce
serait. Non, laisse entendre, moi, je l'entends comme ça. Qu'on voit ici. Regardez, vous avez. Il y a quelques années. Je ne sais pas, en 2002, 2003, il y avait ce qu'on appelle la seconde intifada. Il y avait toute la communauté, et c'était, je ne sais plus quel mois, il y avait une énorme manif, tout le monde était soutien Israël, machin. Et tous, sauf les gens des yeshivotes. Bon, il n'y a pas énormément de yeshivotes à Paris. Mais moi et mes élèves, on n'est pas. Clément, c'est pas. Bon, pas de façon. Mais. Oui. Mais, non, ce que je veux dire, il se passe des choses importantes. Il faut faire des choses. Bon, ceux qui étudient, ils étudient. Je veux dire. Mais pourquoi? Comme en Israël, tu vas dire, voilà, si vous voulez, pour vous énerver. Ouais, il y a un pays qui, depuis sa création, est en guerre. Ouais. Et bon, ceux qui étudient dans les chivotes, ils ne font pas le service militaire. Non, on a autre chose à faire. Non. Ils n'ont rien compris au judaïsme. Le judaïsme, c'est s'impliquer, non ?
Je ne crois pas.
Le judaïsme, c'est pas seulement apprendre, c'est concrétiser dans la vie. Alors, ils ont un copain malade. Bon, attends, j'ai rabota dans 5 minutes, là. Bon, alors, Baba Kama, la meute guimel à Moudbet, on y va, allez, voilà. Donc, Rachid disait, attends, mais il y a ton copain, il est malade. Non, j'ai pas que ça. C'est fou, ça. Alors, comment aller plus loin que ça? Je vous propose un troisième texte. Il y a beaucoup de textes sur Rabbi Akiva. Au fil de Talmud, il y a énormément de textes. Il y a un autre texte, qui explique un peu à quoi ressemblait l'étude de Rabbi Akiva. Je vous passe ça. Thank you. Alors, ici, le texte, donc c'est dans le traité Sota. Ce texte parle comment la qualité de l'encre pour écrire un Sefer Torah. Quand on écrit, donc il faut écrire avec une certaine encre. Il faut que cette encre, l'encre, une des qualités de l'encre, c'est qu'elle soit persistante. Quand j'écris, que ça ne s'efface pas spontanément au bout de quelques jours. Il faut que l'encre reste. Bien. Et le débat, quel ingrédient mettre dans les composants de cette encre? Alors ça commence ici. Là, vous voyez, Gimel Mem en gras. Amar Rabbi Yehuda Mar Shmuel. Amar Rabbi Yehuda Mar Shmuel. Rabbi Yehuda de nos Shmuel. Mishum Rabbi Meir. Vous voyez, Amar Rabbi Yehuda Mar Shmuel Mishum Rabbi Meir. Au nom de Rabbi Meir. Rabbi Meir dit que chez Haïti, Lamed Torah et Sel Rabbi Akiva, Rabbi Meir dit, quand j'apprenais la Torah auprès de Rabbi Akiva, Haïti Matil Kan Kan Tom, les Torah radio, Velo Amarli Dava. Quand j'étudiais la Torah auprès de Rabbi Akiva, je mettais de Kan Kan Tom, c'est du vitriol, je mettais du vitriol dans l'encre, Velo Amarli Dava. Et Rabbi Akiva me laissait faire. Keshebati et Sel Rabbi Shmel, quand après je suis allé chez Rabbi Shmel, Amarlo, Beni, Mamelartecha, Rabbi Shmel, quand je suis arrivé à l'Eshiva de Rabbi Shmel, quand je suis arrivé à l'Eshiva de Rabbi Shmel m'a dit, mon fils, quel est ton travail? Amartilo Lavla Rani, je suis scribe. Alors bon, il lui dit, ne mets pas de vitriol. Parce que le vitriol, justement, c'est pas seulement que c'est persistant, mais c'est indélébile. Le vitriol est corrosif, donc si tu fais une erreur, tu ne peux pas corriger. Donc Rabbi Shmuel a dit, ne mets surtout pas le vitriol. Il faut de l'encre de bonne qualité, mais pas de vitriol. Ok ? C'est ça le débat. Le texte continue, et regardez la troisième ligne large. Troisième ligne large, Ini, je ne suis pas d'accord. Le texte dit, je ne suis pas d'accord. Vatania. Il y a un enseignement qui dit strictement le contraire. Donc, Odile, ce n'est pas seulement le texte qu'on a vu là-bas, c'est toujours, toujours le contraire. Maintenant, le texte va dire le contraire. Ini, Vatania. Le texte dit le contraire. Amar Rabbi Meir, Rabbi Meir dit, Keshe Haïti Lamed Torah Etzel Rabbi Shmel, Haïti Matil Kan Kantom Le Torah Radio, Velo Amarli Davar. Rabbi Meir, un texte absolument le contraire. Vous prenez le texte d'avant, le contraire. Rabbi Meir dit, quand j'apprenais la Torah auprès de Rabbi Shmel, je mettais du vitriol dans l'encre, Velo Amarli Davar, il me laissait faire. Keshe Bati Etzel Rabbi Akiva, Asra Alay. Quand je suis allé auprès de Rabbi Akiva, donc on voit que là, le texte dit, il était d'abord chez Rabbi Shmuel, et après il va chez Rabbi Akiva. Donc, chez Rabbi Shmuel le laissait faire, Rabbi Akiva lui dit ne le fais pas. En avant le contraire. On a vu, il était chez Rabbi Akiva le laissait faire, il va chez Rabbi Shmuel, il dit surtout ne le fais pas. Donc, rien ne fait plus, faites vos jeux. Ouais. Comment c'est... Donc, rien ne va plus. Donc le Talmud dit, double question, les doubles questions sont claires. La question qui va nous intéresser est, chez qui a-t-il appris au début? Chez Rabbi Shmuel ou chez Rabbi Akiva? Réponse. Et la réponse est sublime. Il dit, Shimush, regardez, cinquième ligne avant la fin de la page. Shimush, à Shimush, quatrième ligne avant la fin. Bishlama, Shimush, à Shimush, la cachette. Non. La question « Chez qui a-t-il étudié en premier ?» n'est pas une question. On va résoudre cette question. « Meikara ata lekame de Rabbi Akiva. » Au départ, Rabbi Meir, il est allé étudier chez Rabbi Akiva. Qui va de lo matzi kam alibé. Mais il n'arrivait pas à comprendre qu'est-ce qu'il voulait. D'abord, Rabbi Meir est allé chez Rabbi Akiva et ne comprenait pas qu'est-ce qu'il voulait, Rabbi Akiva. Il était là, il ne comprenait rien. Il ne comprenait rien. Et Rashi, c'est le plus beau Rashi du monde, va expliquer. Je lis Rashi. Je lis Rashi. C'est la Rashi, c'est la quatrième ligne avant la fin. L'omati mikam alibé. Il n'arrivait pas à comprendre ce qu'il voulait. Alikar tamé. Il n'arrivait pas à comprendre les explications. Shaya omer al tamé taor omarelo panim. Val taor tamé omarelo panim. C'était quoi les cours de Rabbi Akiva? Rashi nous explique qu'est-ce que c'était les cours de Rabbi Akiva. Sur ce qui était pur, il disait que c'était impur, il le prouvait. Sur ce qui était, qu'est-ce que je veux dire, pur, il disait que c'était impur, il le prouvait. Ce qui était impur, il disait que c'était pur, et il le prouvait. Au revoir. Ça veut dire... Tu ne savais plus qu'est-ce que c'était le bien, qu'est-ce que c'était le mal au cours de Rabbi Akiva. Il te prouvait que ce qui était bien te prouvait que c'était mal. Et ce qui était mal, il te prouvait que c'était bien. Le cours s'arrêtait là. Alors, Rabbi Meir... Rabbi Meir, donc ça ne marchait pas son truc. Rabbi Akiva, ça ne marchait pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Ata le kamé de Rabbi Shmuel ve gamar gemara. Il est allé chez Rabbi Shmuel, il a beaucoup appris chez Rabbi Shmuel. Rabbi Shmuel avait un enseignement beaucoup plus structuré. Donc, en vérité, cet enseignement de Rabbi Akiva lui a donné envie d'apprendre. Mais il n'arrivait pas à apprendre avec Rabbi Akiva. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il est allé après chez Rabbi Shmuel, où il a beaucoup appris. Une fois qu'il a beaucoup appris, Adar ata le kamé de Rabbi Akiva et Sabar Sfar. Une fois qu'il a beaucoup appris, il a compris que chez Rabbi Akiva, c'était essentiel, se passer chez Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, en vérité, il apprenait à réfléchir. Mais il apprenait à réfléchir. Mais il fallait avoir un bagage. Donc c'est ça, ta remarque tout à l'heure, très bonne. Il a eu 24 000 élèves, et finalement il a eu 5 élèves. Après, il n'a pas eu 6 élèves, 7 élèves, 8 élèves. Il a eu 5 élèves. Et ces élèves, il est allé auprès de nos maîtres. C'était déjà des Chachamim, qui étaient à même d'intégrer qu'est-ce qu'ils disaient. Mais nous voyons ici, qu'est-ce que c'était l'enseignement de Rabbi Akiva. Une fois, j'ai vu ce texte, et quelqu'un m'a donné une très bonne explication. Je vous ai rapporté tout à l'heure Rabbi Akiva. L'enseignement de Rabbi Akiva, l'enseignement le plus célèbre, c'est « Ve'afta l'erdeacha kamocha zeklat gadol batora ». Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est l'enseignement le plus qui englobe le plus d'idées de la Torah. En vérité, si tu vas à un cours de Rabbi Akiva, le texte ici, Rabbi Meir nous dit, j'y comprends rien. C'est méchant. C'est méchant. Si tu vas à un cours, c'est pour comprendre, pour apprendre. Rabbi Meir nous dit, non, j'allais chez Rabbi Akiva, je ne comprenais rien. Je ne savais pas où il voulait en venir. Je ne voyais pas du tout où il voulait en venir. Je ne voyais pas du tout où il voulait en venir. Mais en vérité, c'est ça, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est que nous, on est avec des idées toutes faites. On est avec des idées instinctives. Excusez-moi l'expression, j'ai entendu ce matin quelques phrases d'une interview de François Hollande. Si un exemple pour moi de la connerie, c'est ça. Ça veut dire, c'est que des idées toutes faites. Que des idées toutes faites. Il n'y a rien de personnel. Il n'y a rien de... C'est que du consensuel, que de la langue de bois. Que du consensuel, que glisse. On dirait la savonnette. C'est la pensée savonnette. C'est blouf. C'est la pensée savonnette. Bon, ça n'a rien à voir, je ne veux pas baisser le niveau avec ce postulant à être président de la République. Mais ça veut dire, c'est des idées toutes faites. Monsieur Hollande, est-ce que finalement vous avez un projet personnel? N'est-ce pas le rêve finalement de tout petit garçon d'être un jour président de la République? Pas du tout. Pas du tout. Moi, je n'ai pas de projet personnel. Je n'ai le projet de mes camarades du Parti Socialiste. Et si nous avons, d'un commun accord, un projet à porter à la France, à nos concitoyens, parce que nous nous soucions des projets... Mais arrête ton char. Dis quelque chose. C'est horrible, il n'y a rien d'humain. On dirait un lobotomisé. C'est pas de la pensée, c'est du... Comment dire, la pensée, elle est... Quand tu analyses les choses, quand tu confrontes les choses à la réalité, le mec, non, j'ai toujours pensé. Et puis je veux lui en montrer à cette salope de Ségolène que j'arrive à faire quelque chose dans la vie. Non, je sais pas, dis-nous quelque chose. Non, il est... Non, mes copains, finalement, moi, je me soumettrai à décision collégiale. Arrête. T'es quoi ? C'est n'importe quoi. Tu dis n'importe quoi. C'est... Dire, ça veut dire... Essayer de réfléchir. C'était ça l'enseignement de Rabbi Akiva. Si je peux me permettre. C'est, ici, on voit en direct de ces textes. C'est quoi l'étude ? L'étude, c'est que nous, on a des idées. Une idée toute faite, quelqu'un est malade, il faut aller visiter les malades, je vais faire quelque chose de bien, je vais faire une BA, on a pris ça aux EI, ouais, il faut être gentil, c'est une base du judaïsme, ok. Mais est-ce que vraiment tu fais une mitzvah? Est-ce que c'est ça ce que Dieu te demande? Je ne sais même pas qu'est-ce que Dieu me demande. Qu'est-ce que c'est finalement? Qu'est-ce que je vais faire quand je vais visiter un malade? Alors justement, ils n'étudient pas comme ça pour étudier, pour être des anges destructeurs. C'est pas ça. C'est l'étude, c'est analyser les choses, reprendre les choses au début. Et j'ai pas photocopié un texte, mais tout à fait complémentaire, et un texte dans le traité Ketubot, que Tosfot rapporte dans le traité Ketubot, la Fiyud Aleph, si je ne m'abuse. Tosfot rapporte que Rabbi Akiva, donc il a commencé à étudier à 40 ans. Et il étudiait avec les deux grands maîtres contemporains de la destruction du temple, Rabbi Yoshua et Rabbi Lézer, Ben Orkelos. Et le texte dit, au début qu'il étudiait, il se promenait dans la campagne et il a rencontré dans un champ un mort sans sépulture. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Akiva ? Il y a un commandement de la Torah d'enterrer les morts. Trouver un mort sans sépulture, ça s'appelle dans la tradition un met mitzvah. Un mort, la mitzvah, c'est mitzvah prioritaire d'enterrer ce mort. Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le cadavre et il a marché guimel par sa haute, ça fait 12 km, pour l'amener dans un cimetière juif. Il arrive à la yeshiva de ses maîtres, Rabbi Shmuel et Rabbi Yoshua, et dit, Donc il était un peu... il sentait sûrement un peu la rose, quoi. Il arrive et il explique qu'est-ce qu'il a fait. Et ses maîtres l'ont grondé. Ses maîtres l'ont grondé. Tu as mal fait, Rabbi Akiva. Nous t'interdisons maintenant de faire des mitzvot. Nous t'interdisons de faire des mitzvot. Pourquoi ? Si tu avais appris, tu aurais su qu'un maître mitzvah, les sages désapproprient la personne où tu as trouvé le cadavre, tu dois l'enterrer sur place. En vérité, ton acte d'héroïsme. Est-ce que vous voyez, vous prenez 12 km avec un cadavre, 12 km. 1 km à pied, ça use. 1 km à pied, ça use les souliers. 12 km, guimel par saote. Une par ça, c'est 4 km. Il a fait 12 km avec un cadavre. Il faisait quelque chose de grandiose. Il arrive, c'est maître. Ok, arrête de faire des mitzvot. Arrête. Apprends. Après, on verra. Tu sais même pas qu'est-ce que c'est enterrer un mort. Toi, tu crois que t'as une bonne idée humaniste. Faire des choses même grandioses. Mais c'est même pas ce que Dieu te demande. Arrête. Arrête d'agir. Apprends. Quand on dit l'étude est grande parce qu'elle amène à l'acte. L'étude est grande parce qu'elle apprend à analyser qu'est-ce que c'est un acte. Un acte, c'est pas seulement se faire plaisir en faisant des choses bien. C'est ça les élèves de Rabbi Akiva. C'est ça les élèves de Rabbi Akiva. Il y a un type, il est malade. On étudie, on verra plus tard. On verra visiter les malades plus tard. Voilà, je vais faire de l'humanisme, se faire plaisir, se gratter le nombril en me disant, en faisant de l'humanitaire. Mais on va faire de l'humanitaire. On va s'intéresser aux gens, comme ça, pour se faire plaisir. Qu'est-ce qu'on fait? C'est du narcissisme. Il faut déjà apprendre qu'est-ce que la Torah nous veut. C'est ça la chokhma. Les chachamim ne sont pas allés le visiter. Le texte, il nous dit, justement, parce que c'est des chachamim, les imbéciles, ils vont faire des mitzvahs, les imbéciles, ils font de la générosité. Mais oui, mon ami, ce que tu as besoin, est-ce qu'on te peut t'inviter Shabbat? Qu'est-ce que tu as besoin? Oh, le pauvre, il est malade, je vais le voir, viens. La copain, il est malade, allez, viens, on va faire notre B.A. Mais on fait rien, on se fait que plaisir. Analysons les choses, approfondissons les choses. Il faut même se remettre en question. C'est ça le chesed de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il reprend même les notions. Ah, c'est bien de visiter les malades. Imbécile, connard. Tu te fais plaisir. Narcissisme. Tu mets le narcissisme. Bon, tenir le choc. Alors les gens, ils... C'est vrai, on est cons. D'accord, Rabbi. D'accord, il faut qu'on apprenne. D'accord, Rabbi. Mais la Torah, elle commence là. La Torah, c'est une rupture. La Torah, c'est la rupture des idées toutes faites. C'est un bouleversement. C'est la Torah de Dieu. C'est un bouleversement. C'est pas... Mon maître, il dit comme ça. Il y en a, excusez-moi l'expression, je rapporte les mots de mon maître. Il y en a, ils pensent comme ils pissent. Ça veut dire, je pense, ouais... Je pense. Ils ne pensent pas. C'est du liquide. C'est du liquide qui coule. C'est pas de la pensée. C'est du vomi. C'est pas de la pensée. La pensée, c'est une rupture. La pensée, c'est on arrête et on analyse. C'est ça l'étude. C'est ça l'étude de la Torah. Mais il y a un drame là-dedans. C'est pour ça que nous avons ce deuil. C'est pour ça que nous avons ce deuil entre Pessah et Shavuot. C'est qu'il y a un drame là-dedans. La Torah, la Chorma même, la Chorma, la connaissance, la pensée, c'est une rupture par rapport à l'instinctif, par rapport à la bonne pensée, par rapport au narcissisme de la bonne pensée, au narcissisme du bien et du bon. C'est une rupture par rapport au bien et du bon. Mais il y a un drame, c'est qu'avec ça, il faut le vivre, avec ça, il faut être affiné. Si cette Torah, elle n'est là effectivement que pour se laisser à nouveau manipulé par la Torah, c'est ça le problème. C'est Rabbi Akiva, si on voit ces différents textes, on voit Rabbi Akiva, c'était une révolution. Rabbi Akiva, c'était la rupture absolue. Et les gens étaient fascinés par Rabbi Akiva. Ils étaient fascinés. Nous voyons ici l'exemple, tu as dit, mais il y en avait bien peut-être qui étaient valeureux par rapport à ça. Eh bien oui, le texte nous rapporte Rabbi Meir. Rabbi Meir, il entendait ça, il dit, il a raison, j'y comprends. Ça me fait du mal. Il me fait du mal. Ce monsieur me fait du mal. Je ne suis pas assez armé pour le fréquenter. Et les autres, ils étaient... Ils se laissaient manipuler. Ils se laissaient manipuler. Ils se laissaient presque dépersonnaliser par rapport à Rabbi Akiva. Dépersonnaliser, c'est pour ça d'ailleurs que vous avez été choqués. On nous dit 12 000 fois 2. Mais Dieu donne, on n'est pas 12 000 fois 2. Je ne suis pas un numéro. On n'est pas 12 000 fois 2. On est des gens. 12 000 fois 2. Ce n'est pas une manière de parler des élèves de Rabbi. Non, c'est que... Il y avait une dépersonnalisation. Et ça, c'est un drame. C'est le drame de la connaissance. C'est le drame de cette période entre Pessah et Shavuot. Nous allons recevoir la Torah. La Torah, c'est la connaissance. C'est l'ouverture à la connaissance. Mais cette connaissance, il faut la vivre. Et c'est un paradoxe difficile. Il faut se mobiliser par rapport à ça. C'est une période de demi-deuil, parce que ces élèves, en vérité, étaient très valeureux. Ces élèves, ces 24 000 élèves de Rabbi Akiva, c'était des tzadikim, c'était des justes. Et nous, on n'est pas plus justes qu'eux. Si on commence à se brûler les ailes au feu et à la lumière de la Chochma, le problème va se poser. Est-ce que je me laisse manipuler par la Chochma, ou est-ce que, effectivement, je vis cette Chochma, je l'intègre et j'en fais quelque chose dans l'existence? C'est un paradoxe. Il n'y a que ceux qui ne se confrontent pas à la connaissance, à la réflexion et à la pensée, vont dire, oui, c'était des voyous. C'était des voyous, mais la base du judaïsme. Mais c'est quoi le judaïsme? T'en sais rien, qu'est-ce que c'est le judaïsme? Étudie pour savoir qu'est-ce que c'est le judaïsme. Qu'est-ce que c'est le judaïsme? T'as fait le tour de qu'est-ce que c'est le judaïsme? Apprends. Après, on verra. Mais il faut donc remettre les choses en question. Et c'est ça, je dirais, Ve'avtal le'racha kamocha. Rabbi Akiva, c'était dans un mouvement d'amour. Que si je peux apporter quelque chose à quelqu'un, c'est l'aider à réfléchir. C'est l'aider à réfléchir. On commence à sortir de l'animalité. Et on commence à avoir une dimension vivante de vie, de Torah. Donc ça, c'était la démarche de Rabbi Akiva. Mais c'est un problème. C'est un problème. Et nous voyons que Rabbi Akiva, lui, il est allé voir le malade. Il est allé voir le malade. Les élèves ne sont pas allés voir le malade. Ad shenirnas Rabbi Akiva. Rabbi Akiva est allé. Vous savez, par exemple, est-ce que vous avez déjà constaté, vous avez un ami, par exemple, qui vient de perdre un proche? Il y a une mitzvah de même, ce qu'on appelle Nihum Avelim, aller consoler les endeuillés. Vous avez déjà fait ça? C'est hyper dur. C'est hyper dur. Tu vas voir quelqu'un qui vient de perdre son proche. Mais moi, j'aimerais fuir plutôt qu'aller faire ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que moi, je ne vis pas sa souffrance? Je ne vis pas sa souffrance. Qu'est-ce qu'on fait? Faire la mitzvah. Faire la mitzvah. C'est bien de faire la mitzvah, mais encore.
On partage le joug.
Alors, vas-y, tu partages le joug, tu fais quoi?
Juste être là, c'est déjà pas mal.
Comment?
Juste être là et savoir qu'il y a quelqu'un qui est là pour toi, c'est déjà pas mal.
Ah d'accord. C'est bien. C'est très bien. Ça veut dire, des fois, on a du mal à faire les choses parce qu'on ne sait pas quoi faire. Mais avoir ces difficultés, se rendre compte de ces difficultés, c'est déjà quelque chose. Des fois, de ne pas faire la chose, c'est déjà bien. Rabbi Akiva, ses élèves ne sont pas allés voir le malade. Il ne les a pas grondés tout de suite. Parce que peut-être, la personne qui n'est pas proche d'elle-même, elle fait les choses. Mais ce n'est pas qu'elle fait. Elle n'agit pas. Elle est en... Je ne sais pas comment dire. Comment vous voulez dire? C'est pas une action, c'est elle est, comment dire, ça se fait, voilà, c'est quelque chose se fait. On dit, le Talmud dit, grande est l'étude parce qu'elle amène à l'acte. D'ailleurs, c'est Rabbi Akiva qui dit ça. Gadol Talmud Torah chez Mevil et Demaasé. Grande est l'étude parce qu'elle amène à l'acte. Mais c'est pas vrai, au contraire, des gens qui étudient font moins d'actes que des gens qui étudient pas. Mais la réponse est là, justement. C'est les gens qui n'étudient pas. Ils n'agissent pas. C'est, on pourrait dire, le monde agit par eux. Quand quelqu'un il va au boulot, il se retrouve à Châtelet-Léa, l'heure de pointe, on n'agit pas. On est là, je dirais, comme des animaux darwiniens. C'est la lutte pour la survie, on va bosser, c'est normal. Mais ce n'est pas moi qui agis. Ce n'est pas moi qui fais. Grande est l'étude qui amène à l'acte. L'acte, c'est-à-dire c'est moi qui fais. Mais c'est déjà percevoir. Je vous donne un exemple pas gentil. J'ai un grand ami qui est malade. Ma femme, elle me dit tout le temps, appelle-le. J'arrive. Pas gentil. J'ai dit, c'est pas gentil. Je n'arrive pas. Mais grâce à ce qu'on voit maintenant, je vais le faire. parce que de ce qu'on voit, peut-être c'est pas si compliqué, mais c'est dur. C'est parce que t'as un pote, maintenant il se retrouve avec un cancer très dur. Et tu l'apprends pas au début de la maladie, tu l'apprends quand c'est. Salut, ça va? C'est horrible. Mais Jessica, ce que tu dis, c'est juste. Simplement lui dire bonjour, c'est déjà. Mais c'est ça. Mais c'est dur, si vous voulez. C'est dur. Là, c'est la chorma et l'éveil. Et parfois, par la difficulté de faire quelque chose, on se rend compte. Qu'est-ce que je fais? C'est vrai que le Rabbi Akiva, lui, est allé. Qu'est-ce qu'il a fait? Peut-être qu'il avait une difficulté aussi de contact avec cet élève. Pourquoi il est tombé malade, cet élève? Je ne sais pas, moi. Qu'est-ce qui s'est passé avec cet élève? Mais il a pris, il a balayé, il a ouvert la fenêtre, il a changé l'eau des fleurs. Ouais, c'est tout ce qu'il a fait.
C'est pas la visite en soi qui est importante. C'est le fait qu'il a balayé. Et là, c'est ce qui est dit dans le texte, c'est ce qui a sauvé peut-être ce qu'on comprend dans le texte, c'est le fait d'avoir balayé, d'avoir assaini l'atmosphère. Donc c'est pas le fait de juste être là. Je peux aller voir un malade, mais je suis juste pour être là. Je comprends que des fois on n'a pas le choix, c'est la chose qu'on s'en fait, mais je ne sais pas si c'est vraiment utile pour la personne. Par contre, si tu vas, j'ai un malade, mais justement pour. Non, mais on n'a pas ce médecin, mais on peut effectivement. L'aider à gérer le quotidien.
Voilà, des choses, il y a des choses. Il y a des choses simples, concrètes.
Et puis après, la vraie mitzvah. Enfin, je ne sais pas, mais je vois plus.
Non, mais tu disais le contraire, tu disais qu'on se berçait d'illusions dans une forme de narcissisme.
Non, parce que quand tu balayes
Mais tu disais tout à l'heure.
Oui, non, mais c'est ça les élèves. C'était ça l'enseignement de Rabbi Akiva. L'enseignement, c'est l'enseignement qu'il a reçu de ses maîtres. Attention. Approfondissons avant d'agir.
C'est bien d'agir, mais il faut que ça passe par un enseignement.
La base, on dit l'eau à midrash ikar et la amaasé. C'est pas l'étude le principal, mais c'est l'acte. Mais pour arriver à un acte, et comme vous dites, pas un acte qu'il se fait quelque chose, mais que moi je le fasse. C'est ça ce que la Torah demande. La Torah demande que moi je fasse. Pas que un animal, il fait comment il s'appelle, les castors, ils construisent des digues, ils font des lacs artificiels. Alors, est-ce que nous sommes des castors? Oui, quand je disais Riri, Fifi, et dans les castors juniors, ouais, oui, il y avait les castors juniors, mais mais nous, en tant qu'être humain, est-ce que nous sommes qu'instincts, que des instincts, nous sommes des animaux qui agissons, ou bien nous sommes des êtres qui agissons? Un acte, c'est quoi? Un acte, c'est moi qui agis. Et ça c'est l'éveil de la chorma. Mais la chorma, un effet secondaire, qui peut être négatif, c'est le manque de sensibilité. Le manque de sensibilité. Et quand tu étudies la Torah, par exemple, moi je vois avec mes élèves, quand on étudie, et c'est comme ça que mes maîtres, j'enseigne, mais je suis aussi élève, que mes maîtres, quand j'ai pas raison, ils me disent pas, il me semble qu'on pourrait dire autrement, ils me disent, T'as tort. J'ai été éduqué comme ça pendant des années. C'est faux. Ton raisonnement est faux. C'est pas... Quand j'étudie avec des élèves qui vont dans des entreprises et qui bossent dans des entreprises, mais si on parlait comme ça au boulot, on serait jeté tout de suite. On n'est pas habitué à dire ce qu'on pense. On met des formes. Mais quand tu étudies la Torah, soit c'est juste, soit c'est faux. Il y a une justesse. On recherche la justesse des choses. Mais c'est ça l'éducation des élèves de Rabbi Akiva. À force, ils ont pas réussi à prendre un recul par rapport à ça. Ils se sont laissés manipuler. Mais se laisser manipuler est nécessaire. C'est pour ça qu'on a un deuil par rapport à ces élèves de Rabbi Akiva. Parce qu'ils étaient dans cette rupture avec, je dirais, le narcissisme. Cette rupture avec le narcissisme, c'est le début de la connaissance. Maintenant, il faut que ça soit digéré pour arriver à prendre un recul par rapport à ça. Mais on ne peut pas faire l'économie de cette rupture. Et ce paradoxe, ces difficultés, cette souffrance... Nous en faisons le deuil pendant cette période. Et c'est ce deuil qui va nous permettre de nous affiner, qu'on s'introspecte avant de recevoir la Torah au Sinaï. C'est pour ça que c'était pendant cette période que ça s'est passé. Voilà grosso modo ce que je voulais voir avec lui.
Et quand tu parles donc du manque de respect qu'ils avaient mutuellement, tu fais référence donc à quoi?
Manque de respect, ça veut dire, c'est cette dureté. Il y a une dimension de dureté. Ça veut dire que on est dans la recherche du Emet. Et
c'est pour ça qu'ils sont morts.
Il y a quelque chose de... Il y a une... Je dirais comme ça. L'enseignement de Rabbi Akiva, première période, on pourrait dire, l'enseignement de Rabbi Akiva, première période, était nécessaire. Il y a une dimension nécessaire. C'est quoi la dimension nécessaire? C'est, j'appellerais ça, sortir de notre narcissisme. Si on est tout le temps dans le « oui, t'as raison, mais on pourrait dire que peut-être », ouais, il n'y a pas d'échange. Il n'y a pas d'échange. On n'évolue pas, il n'y a pas de pensée. Tout à l'heure, vous avez dit, c'est paradoxal. Un de mes maîtres dit, j'ai entendu d'un de mes maîtres, qui dit, la pensée commence avec le paradoxe.
Comme dans les rêves. Dans les rêves, c'est
ça va pas ensemble.
Oui,
des choses qui ne vont pas ensemble.
C'est extrêmement significatif, donc c'est ça qui est magnifique, malgré ces paradoxes.
Absolument. C'est là où ça commence. Voilà, c'est là où ça commence. Mais pour ça, il faut être prêt à bouger quelque chose. Il faut être prêt à bouger quelque chose. Mais quand tu bouges, tu ne peux pas être dans cette rupture et être dans l'intégration. C'est une rupture. Mais cette rupture, il y a malheureusement quelque chose de morbide aussi. Il y a aussi quelque chose de morbide dans cette rupture. Et là, il y a ce paradoxe. À la fois, c'était des gens de grandeur. Le texte dans le traité Nedarim les appelle des chachamim. C'est des chachamim. C'est des sages. Et d'ailleurs, c'est en leur honneur qu'on fait ce demi-deuil. C'est en leur honneur. Mais cette mort est peut-être pas une punition stricto sensu. C'est que c'était pas intégrable dans la réalité. Ils sont dans une limite. Pour prendre la terminologie du Maharal, la mort, c'est une limite. Ils sont une limite. Rabbi Akiva, deuxième période, je dirais, va plus loin que la limite. Il est dans la limite. La limite, c'est on ne va pas visiter les malades. Mais lui, il va remettre en question ça, il va voir le malade. Il remet en question la remise en question. Il remet en question cette remise en question. Bien.
Donc tu nous mets en garde contre les dangers de la période de Shavuot.
Je mets en garde. Non, moi, j'ai un appel vibrant. Un appel vibrant à l'amour de la connaissance. Voilà. Je dirais, c'est quoi la morale de l'histoire? C'est que il faut le courage de sortir de nos idées préconçues. Et c'est dangereux. C'est dangereux. Un courage, c'est affronter quelque chose de dangereux. Je vais affronter un lion. C'est dangereux. Donc il faut du courage. Eh bien, il faut du courage. Et je pense qu'aujourd'hui, je prends un exemple débile. Mais moi, j'étais bébé à l'époque, mais il paraît qu'il y avait des cours de Jacques Lacan il y a 50 ans. Ouais. Les gens, ils étaient comme ça. Le mec, il arrive.
C'est extraordinaire.
Mais, oui. Il y en a qui ont dit, oui, Jacques Lacan, c'est un pourri, c'est un vicieux, c'est un salaud, c'est tout ce que vous voulez. Ouais. Mais, il y avait un amour de la connaissance. Ah, vous allez dire, oui, mais c'est 500 personnes. Ils se sont fait berner par un illusionniste. Oui et non. Oui et non. Mais, il y a un amour de la connaissance. Aujourd'hui, on ne sait même plus qu'est-ce que c'est la connaissance. On ne sait même plus. Dans mon centre d'études, j'ai lancé ces histoires. J'ai entendu un salaud à la radio. J'aurais dit, non, je vais vous dire qui c'est, pour moi, le rachat. Enfin, j'ai dit tout à l'heure, mon centre d'études. J'aurais dit, je vais vous dire qu'est-ce que c'est, pour moi, le rachat. Le rachat, c'est l'impie. Il s'attendait à ce que je sorte quelque chose de Maus. J'en ai François Hollande.
Ça va reprendre.
Alors là, c'est dingue. Oh. J'étais sûr qu'ils disaient oh.
Oui, c'est le politique, c'est pas Hollande.
Oui, non mais comment dire? C'est un petit salaud.
Mieux,
me dire, non, c'est un petit salaud. Dis-nous Claude Guéant, ou je sais pas, dis-nous un Marine, Claude Guéant, que sais-je. Je m'en fous. Mais c'est la période, c'est présentable, toujours présentable, bien présentable, lisse. Quelqu'un qui dit quelque chose de lisse. Je ne veux pas dire que c'est ça le sujet. C'est pas ça le sujet. Je dirais de ce que nous avons vu ce soir. Il faut avoir le courage d'aborder la connaissance. Voilà. Et c'est un courage, parce que c'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux parce que c'est déstabilisant et on risque d'être manipulé par ça. C'est un risque. Mais ce risque vaut le coup. Il vaut le coup. Voilà. C'est ça, je dirais, le message biblique ce soir.
Mais les 24 000 étudiants, c'est compliqué comme histoire, mais ils ont été manipulés. Pourquoi ? Parce qu'ils sont restés uniquement dans la Chorma et ça a altéré leur sensibilité. C'est quoi
Le mot manipulé, c'est-à-dire, nous voyons, à contrario, Rabbi Meir, qui lui avait une richesse personnelle, de ne pas se laisser prendre par ça.
Pour aller voir ailleurs.
Voilà, voilà. Pour pouvoir être armé, pour intégrer les choses.
Voilà.
Mais je dirais, si nous sommes en deuil pour ces 24 000 élèves, c'est que, comme le texte dit dans Nedarim, c'était des Chachamim. Il y avait l'amour de la Chorma. Voilà. Bien, bonsoir. Merci.